Bienvenue sur Balance ton héroïne. Aujourd'hui, je reçois Arthur Guérin-Bory, qui est champion du monde d'apnée. Il vient de battre deux records dont il va nous parler. Il a plusieurs messages à nous passer concernant les peurs, le lâcher prise, le dépassement de soi et la performance. Mais aussi et surtout, il avait très envie de nous parler de son héroïne, je dirais plutôt de ses héroïnes. En tout cas, la mère en fait certainement partie. Je suis Géraldine Jakowski, je vous accueille sur le podcast Balance ton héroïne. C'est un podcast où j'interview des hommes qui viennent nous parler de leur héroïne et où je mets en lumière des femmes héroïnes des temps modernes qui agissent dans l'ombre. Alors, je vous invite à vous abonner à cette émission en cliquant sur la cloche tout là-haut, sur votre canal d'écoute préféré. Vous pourrez ainsi avoir une notification sur tous les nouveaux épisodes de Balance ton héroïne. Et il y en a un tous les 3 ou tous les 5 jours. Voilà, parce qu'en ce moment, et oui, je me rapproche des gens, les différentes personnes, différentes personnalités se rapprochent de moi. Et donc, je fais régulièrement des interviews. Aujourd'hui, c'est Arthur Guérin-Bory qu'on écoute. Je lui laisse le micro. Arthur Guérin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne.
Merci.
Arthur, ce que je te propose, c'est de te présenter.
Je m'appelle Arthur Guérin-Bory, je suis un apnéiste français professionnel. Je vis entre Nice et Paris, à Paris aujourd'hui pour l'interview là. Et je pratique l'apnée depuis 2011, depuis 2012 à haut niveau. Et champion du monde depuis 2013 pour la première fois, voilà. Et depuis 2013, j'ai eu 5 titres de champion du monde et j'ai eu 8 records du monde, dont le dernier était en mars dernier là au Canada. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation rapide, on va dire.
Ça m'intéresse beaucoup de savoir quel type d'apnée, parce que tu as une. C'est très spécifique pour toi et j'aimerais que tu nous en parles.
Alors moi, je pratique toutes les formes d'apnée, c'est-à-dire que j'aime bien descendre en mer, j'aime bien faire de l'apnée dynamique, j'aime bien faire de l'apnée statique, j'aime bien faire de l'apnée sous glace que j'ai fait récemment. Mais là où j'ai eu mes records et mes titres, c'était surtout en distance, donc en distance à l'horizontale. Récemment, notamment sous la glace, en distance à l'horizontale sous la glace, avec et sans combinaison d'ailleurs, le dernier était sans combinaison. Donc ça, on va dire que c'est pour ce qui est des records et des titres. Après, ce que je préfère faire, moi, ce qui me plaît le plus, c'est descendre dans le bleu, hein, donc c'est surtout descendre en profondeur en mer. Mais ce n'est pas forcément ce qui nous plaît le plus, là où on est le meilleur, hein. Ça peut arriver. Moi, en tout cas, là où j'ai eu mes records, voilà, c'est dans des disciplines de distance à l'horizontale. Mais comme je viens de te le dire, je pratique vraiment toutes les formes d'apnée. Et là où je m'éclate le plus, en tout cas, pour le plaisir, on va dire, c'est surtout en descente en verticale dans le bleu. Comme souvent dans le sport à haut niveau, la compétition n'est pas forcément corrélée avec la notion de plaisir. Pas mal de sportifs de l'extrême, on va dire, ou de sportifs de haut niveau, se font plaisir dans leur sport hors compétition. En réalité, quand on est en compétition, on n'est pas forcément dans une notion de plaisir, on est dans une notion de dépassement de soi et de recherche de performance. Et quand on se fait plaisir, c'est le week-end avec des copains, quand on va pratiquer son sport justement pour le plaisir. Donc il y a vraiment, moi, chez moi en tout cas, cette dualité qui existe dans ma pratique de l'apnée, qui est là où je me fais plaisir et où je prends vraiment du plaisir, c'est surtout en mer, quand je descends en profondeur, que je m'entraîne avec mes copains, ou quand on va faire des films ou des vidéos avec mes potes vidéastes ou photographes, ou quand je m'entraîne avec mon club niçois. Et quand je fais des records, bah, c'est autre chose. Je suis dans vraiment dans une recherche de performance qui est satisfaisante aussi. C'est-à-dire, là, je vais avoir une certaine satisfaction à faire ça, mais pas forcément dans le plaisir, quoi. Voilà, c'est pas pareil, c'est différent.
Quel a été le déclencheur à un moment donné qui a fait qu'au niveau de l'apnée, tu es passé du plaisir-loisir à la performance ?
Alors ça s'est fait, il n'y a pas eu vraiment de déclencheur pour ça. Ça s'est fait vraiment de manière assez douce et assez naturelle. Je me suis inscrit dans un club d'apnée en 2011 à Paris. Et en fait, j'ai suivi un petit peu les conseils de mes encadrants, donc de mes instructeurs, et qui ont vu qu'il y avait un potentiel pour aller loin et pourquoi pas tenter de faire de la compétition. Et c'est eux qui m'ont conseillé en fait de m'entraîner pour faire de la compétition. Et donc j'ai tout simplement suivi leurs conseils et je me suis mis à m'entraîner pour faire de la compétition. Mais il n'y a pas eu vraiment de déclencheur. C'était tiens, on me propose de faire de la compétition, bah pourquoi pas. Alors je vais sûrement rentrer dans quelque chose de nouveau qui est peut-être moins axé sur le plaisir, justement. Peut-être que je vais rentrer dans quelque chose de plus axé sur justement du dépassement de soi, de la recherche de la performance, mais pourquoi pas le tenter. Voilà, c'était une période de ma vie où j'étais je bossais dans Paris, j'avais pas une vie super exaltante. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter de la compétition, peut-être que ça va un petit peu me sortir de mon quotidien et essayer de et puis peut-être m'apporter quelque chose de nouveau. Donc ça fait vraiment dans une espèce de continuité comme ça, où j'étais déjà inscrit dans ce club d'apnée et j'ai tout simplement en fait écouté les conseils de mes encadrants qui ont vu un potentiel en moi, et j'ai suivi un petit peu la voie qui se présentait à moi sans vraiment qu'il y ait de déclic ou de déclenchement pour faire de la compétition. Non, ça c'est venu plutôt quand je me suis inscrit pour faire de l'apnée. C'était plutôt ça.
D'accord.
Quand je me suis inscrit pour faire de l'apnée, par contre, là, oui, là, il y a vraiment un déclencheur, ouais, où j'étais dans une vie parisienne qui ne me plaisait pas, je faisais pas un métier qui était pour moi une vraie vocation, c'était pas un métier passion, donc j'étais... Et puis moi, j'ai toujours été convaincu que je vivrais plus tard, à l'âge adulte, de ma passion ou de mes passions. Et donc j'étais pas du tout dans quelque chose de satisfaisant et de réalisant, on va dire, pour moi, par rapport à la vision que je me faisais de mon développement et de ma propre vie et de mon existence. Du coup, j'étais pas bien, quoi, et donc il a fallu que je me sorte un petit peu de ce quotidien là et je me suis dit, tiens, c'est par le sport que je vais m'en sortir. Et comme l'apnée était un sport que j'adorais depuis gamin, je me suis renseigné, j'étais voir s'il y avait des clubs d'apnée. Et voilà. Et là, je me suis rendu compte que c'était un sport en pleine explosion, quoi, que c'était devenu un sport à la mode un peu. Et donc, il y avait plein de clubs partout autour de chez moi. Donc, je me suis inscrit dans un club et ça a commencé comme ça. Et là, il y a eu un vrai déclic au moment où j'ai découvert ce sport, la première séance, les deux, trois premières séances que j'ai fait en région parisienne. Là, il y a eu un déclic où j'ai compris que j'avais trouvé quelque chose qui me convenait et qui était dans lequel je pouvais pas tout de suite me réaliser, parce qu'au début, je faisais de l'apnée loisir. Je ne pensais pas que j'allais faire ma vie là-dedans, ou en tout cas une partie de ma vie là-dedans. Mais en tout cas, j'étais persuadé que j'avais découvert quelque chose qui allait m'apporter beaucoup, quoi. Voilà.
Alors justement, quand tu as découvert l'apnée, en contraste avec ta vie parisienne et un travail dans lequel tu ne t'épanouissais pas, qu'est-ce que ça t'a tout de suite apporté au niveau intérieur, au niveau de ton corps et au niveau de ton mindset ? tout de suite ou au fur et à mesure d'ailleurs?
Ça va assez vite avec l'apnée, hein, les impacts qu'on peut ressentir. Tout de suite, le contact avec l'eau, hein, qui est évidemment intéressant. Le contact avec l'élément, donc je dirais les facteurs contextuels de la pratique, moi j'appelle ça comme ça. Donc, c'est-à-dire vraiment le silence, la pesanteur, le contact avec l'élément, le fait d'être enveloppé comme ça par ce fluide. La glisse, il y a un contact déjà avec l'élément qui est enveloppant et qui est et au niveau sensitif qui apporte beaucoup et qui force d'ailleurs le cerveau à se mettre dans un mode apnée. C'est assez marrant. On passe dans un mode différent qui est en fait très axé sur le moment présent quand on se met sous l'eau sans respirer. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire de la part de la personne qui se met sous la surface en arrêtant de respirer. C'est réflexe, hein. Le cerveau se met dans un mode je suis présent à ce qui se passe tout de suite. Et en fait, je fais pas mal abstraction de tout ce qui m'entoure et de tout ce qui est à la surface. Et en fait, on est dans ce mode apnée assez instinctivement. Voilà, pratique. Et ça, c'est intéressant parce que par la force des choses, ça nous force à être dans un mode assez différent et assez déconnecté de notre vie de terrien de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose c'est pas quelque chose que j'invente, hein, du tout, hein, c'est quelque chose qu'on vérifie très très bien, par exemple, avec les bébés nageurs. C'est un exemple dont je parle régulièrement. C'est vrai que les bébés n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on va les mettre sous l'eau, qu'il faut qu'ils arrêtent de respirer, donc ils le font spontanément. Et ce réflexe apnéique, on va dire, il est ancré en nous, il est archaïque. Et les bébés l'ont, et puis nous, on l'a aussi à l'âge adulte, hein, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Donc en fait, nous, on a le recul aussi pour comprendre, donc on arrête de respirer sciemment, mais il y a aussi en nous un réflexe archaïque qui se déclenche et qui fait qu'on est dans un mode où on est centré sur le moment présent. Et ça fait beaucoup de bien quand on pratique régulièrement, bien sûr.
Ok, donc là, en fait, j'étais en train de t'écouter et j'étais en train de m'imaginer, m'immerger dans l'eau et de... Voilà, d'essayer de voir un peu ce qui se passe dans le corps. Juste un petit partage entre nous et pour cette interview aussi. Moi, je ne sais pas faire, en fait. C'est-à-dire que j'ai une phobie de... J'ai une phobie et je ne peux pas descendre. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire des initiations apnée. Et malheureusement, je n'arrive pas à descendre sous l'eau. Il y a une peur qui me fait remonter tout de suite. Est-ce qu'on peut en guérir?
Oui, bien sûr. Après, il y a des personnes plus anxieuses que d'autres. Il y a des personnes qui sont... plus inquiète que d'autres, je veux dire, ça dépend aussi de la personnalité de chacun, mais il y a toujours un travail qui peut être fait sur ce genre de peur. Mais je sais évidemment que pour ce qui concerne la peur des profondeurs quand on pratique l'apnée, il y a pas mal d'apnéistes qui sont confrontés à ça, bien sûr, hein. Moi-même, quand j'ai commencé à descendre en mer, j'étais pas serein, j'étais pas habitué. Donc, il a fallu que je m'habitue aussi à ça, mais en fait, c'est comme tout, c'est-à-dire que au début, ça inquiète un peu, puis on ne sait pas trop, et puis au final, on descend de plus en plus, on pratique de plus en plus, et puis on est de plus en plus à l'aise avec le milieu, et on arrive à se détendre de plus en plus par rapport au milieu, par rapport à la compression, par rapport au froid, par rapport à l'obscurité, par rapport à ces peurs intérieures aussi qu'on peut avoir quand on descend comme ça en profondeur. Et petit à petit, le travail se fait. Et en fait, petit à petit, de manière progressive, hein, ces peurs finissent par s'estomper, voire même par disparaître complètement. Après, je sais que moi, par exemple, j'aime pas nager dans une eau trouble, par exemple. J'aime pas nager dans une eau où on a une mauvaise visibilité. C'est pas un truc qui me plaît énormément. Je peux descendre les yeux fermés en mer à 60 mètres de profondeur alors que j'ai 500 mètres de fond en dessous. ça me dérange pas, du moment que l'eau est claire, franchement, ça ne pose aucun problème. Mais par exemple, j'aime pas nager en eau trouble. Hein, pour D'accord. un apnéiste, ça peut sembler bizarre. Alors, je l'ai déjà fait quand même. Hein, je passe au-dessus de mes craintes par rapport à ça, qui sont de toute façon infondées, évidemment. Mais c'est vrai que on a tous, voilà, nos petites, on a tous nos craintes, nos inquiétudes, et c'est normal. Après, il appartient à chacun de trouver les moyens d'aller pêcher les ressources en soi pour dépasser un petit peu ses craintes et essayer de relativiser, essayer de rester dans le relâchement, etc. Parfois, c'est très, très dur et très compliqué. Et à ce moment-là, on a affaire à des vraies phobies qui peuvent être débloquées avec l'aide de professionnels, dont je ne fais pas partie.
Oui.
Mais sinon, si c'est des craintes qui peuvent être maîtrisées, à ce moment-là, je pense qu'avec une pratique régulière et de l'habitude, c'est quelque chose qui finit par s'estomper. Voilà. Et pour en ce qui te concerne, la peur de descendre, enfin, je veux dire, ça arrive à plein de gens, hein, c'est tout à fait normal. Il suffit de commencer, par exemple, dans un milieu artificiel, en bassin, dans des fosses de plongée qui sont très bien éclairées, où c'est absolument pas anxiogène, avec une eau claire, en milieu artificiel, voilà, par exemple, ça peut permettre de commencer de manière moins anxiogène, et puis ensuite, quand on est à l'aise, on peut aller en mer, dans une eau claire, accompagné, voilà, avec des gens qui encadrent, et puis descendre petit à petit, voilà, surtout apprendre à rester dans le relâchement, et c'est vraiment un sport qui passe par le relâchement, donc à partir du moment où on est tendu, anxieux, inquiet, etc., c'est sûr que ça ne va pas marcher. Il faut d'abord réussir à se pacifier, à se mettre au repos soi-même avant de descendre, parce que sinon, on n'arrivera pas à descendre si on est tendu, ça c'est clair.
Donc toi, tu es aujourd'hui, Arthur, dans la transmission par rapport à ton apprentissage et à la quête ou la recherche de performance. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Pourquoi à un moment donné, quand on est dans le loisir et le plaisir, on va aller chercher la performance avec la prise de risque qu'on connaît ?
Alors oui, aujourd'hui, je partage ce que j'ai découvert et ce que j'ai pu apprendre à travers des conférences en management, en entreprise, sur effectivement, justement, la gestion des peurs. C'est quelque chose, voilà, la peur, la trouille, c'est quelque chose, c'est un des sujets sur lesquels j'aime bien débattre. La gestion du stress, qui rejoint un petit peu ça aussi. La prise de risque qui rejoint aussi ces deux sujets-là, le courage, la peur de l'échec, voilà, ça c'est la performance bien sûr, voilà, c'est des sujets sur lesquels je m'exprime avec grand plaisir à l'occasion de conférences en entreprise et c'est vrai que j'adore cette activité de partage et de transmission parce qu'en fait sinon à quoi bon? C'est un petit peu ça le résumé, c'est-à-dire que sinon à quoi bon ? Parce qu'en réalité, pour moi, le sport, si ce n'est faire rêver les gens à travers des compétitions ou des performances sportives et inspirer les gens, on va dire, le sport n'a pas forcément d'utilité pratique dans une société productive. C'est-à-dire que je sais à quoi sert un plombier, je sais à quoi sert un ingénieur en génie civil, je sais à quoi sert un architecte, je sais à quoi sert un agriculteur, un apnéiste, je ne sais pas trop à quoi il sert. En revanche, aujourd'hui, le fait d'aller justement m'exprimer sur ces sujets-là devant des gens et leur donner justement des clés de compréhension par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur quotidien, leur position dans la société, dans leur entreprise, dans leur entourage, le travail qu'ils peuvent faire sur eux-mêmes, etc. Là, il y a un véritable impact et une réelle utilité. Moi, je trouve, en tout cas, à mon niveau, c'est la manière dont je vois les choses. Et donc, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup, en fait, de passer de ce côté-là et de faire de plus en plus, justement, de développer de plus en plus cette activité de partage, c'est que c'est... pour moi, il y a une réelle utilité fonctionnelle, je dirais, même si ça veut dire à peu près la même chose. à ce que je fais. Et pour moi, ça donne du sens à ce que j'ai pu faire avant et à toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer pendant ma carrière dans les performances que j'ai pu faire qui ont été le plus souvent très très difficiles, parce qu'en plus de ça, je performe dans une discipline d'apnée qui est, je pense, moi, la plus difficile mentalement, en tout cas, de ce que moi, en tout cas, j'ai pu expérimenter par rapport à la profondeur. Ce que je fais, je trouve, et ce que font les apnéistes en apnée dynamique, c'est-à-dire en distance à l'horizontale, est beaucoup plus exigeant. Et donc, en fait, là, je trouve une satisfaction, une réelle satisfaction dans cette transmission par rapport à toute la difficulté que j'ai pu rencontrer dans ma carrière pour aller aussi loin dans un sport aussi difficile. C'est un petit peu la récompense, en réalité. Voilà, c'est-à-dire, maintenant, je convertis tout ça en transmission et c'est très gratifiant, voilà. Mais même beaucoup plus en réalité qu'une médaille d'or dans ma discipline, quoi. Parce qu'encore une fois, je trouve que là, il y a une réelle utilité et il se passe quelque chose, quoi. C'est-à-dire que la performance sportive en elle-même, c'est très satisfaisant, c'est incroyable, on a atteint un objectif, il y a eu beaucoup de travail en amont, ça fait rêver beaucoup de gens, etc. Mais je nourris personne, quoi. Et au-delà du fait de faire rêver les gens, je trouve que il n'y a pas grand-chose. En tout cas, là, je trouve qu'il y a dans cette activité de transmission, il y a réellement quelque chose de concret où on va vraiment aider les gens avec du concret, quoi. Et c'est ça qui me plaît beaucoup.
Oui, justement, j'étais en train de penser aussi à la récompense, en fait, de tout ton travail pour réaliser ces exploits. Donc, c'est intéressant. En tout cas, je mettrai dans les ressources de cette interview, de cet épisode, des liens pour que nos auditeurs puissent te contacter en référence à tes conférences, justement. Alors, quand on a échangé tous les deux en préparant cette interview, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé, alors toi, Arthur, qui est ton héroïne ? Et ça n'a pas été une réponse spontanée de ton côté, et je trouve ça intéressant. Et tu m'as demandé un peu de réflexion par rapport à cela. Alors aujourd'hui, je te repose la question. Arthur, qui est ton héroïne ?
Bah, c'est vrai que c'est pas facile parce que effectivement, je me suis rendu compte que mes modèles étaient plutôt masculins et c'était du coup une question qui est assez bonne à poser. Et c'est vrai que moi, quand je regarde un petit peu mon passé, la manière dont je me suis construit, ma destinée un petit peu depuis mon enfance. Tout ça a été grandement façonné par le rapport que j'ai eu avec ma mère, qui est décédée quand j'avais 8 ans, hein, quand j'étais petit. Et donc, en fait, un rapport en fait, qui n'existe pas vraiment, mais si tu veux, cet événement a en fait conditionné la manière dont je me suis construit, m'a aussi donné cette combativité, cette capacité de résilience. Et a fait grandement qui je suis devenu aujourd'hui. Et c'est vrai que, en y réfléchissant bien, moi j'ai une image de ma mère qui est quelqu'un de pleinement accompli dans ce qu'elle a fait, parce qu'elle était comédienne de théâtre, donc elle a cartonné sur les planches pendant 10 ans au moins. Même 15 ans, je pense, au moins. Et tout ce qu'elle a fait a été du succès du début à la fin. Enfin, je veux dire, elle était adorée de tout le monde. Elle avait énormément de talent. Elle était reconnue pour ce qu'elle faisait. Elle faisait rire beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que j'ai l'image de cette femme qui en plus, était féministe pour l'époque, mais le féminisme comme je l'entends moi, c'est-à-dire un féminisme comment dirais-je, les hommes, vous nous emmerdez un peu, mais on a bien besoin de vous quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ma mère avait tout à fait compris ça, et d'ailleurs, elle en jouait hein, dans ses spectacles.
On est en 70, on est dans les années 70-80, à ce moment-là.
On est dans les années 70-80, et ma mère a monté cette troupe avec sa sœur, avec ma tante, qui s'appelait les Trois Jeannes, et qui a cartonné, voilà, qui était un petit peu trois copines féministes rigolotes, à chambrer un peu les mecs, mais quand même, on en a bien besoin et on est bien contente qu'ils soient là. Et ce concept a cartonné, donc ça a vachement bien marché. Après, elle a fait aussi des trucs seule en scène. Hein, elle a aussi fait des one woman show, un one woman show en tout cas, qui est même deux one woman show, dont un qui portait mon nom, voilà, Arthur, et qui était écrit autour de la relation qu'elle a justement avec moi, ce qui est assez marrant. Et donc voilà, et donc il y avait cette, moi j'ai cette image un petit peu de ma mère. Réussite fulgurante, et fin tragique et prématurée malheureusement, mais voilà, j'ai cette image là et je dirais que du coup cette image que j'ai de réussite, de vie d'insouciance un peu, de vivre de son talent, de réussite artistique, et ce voilà, et la manière, enfin ce que ça a laissé dans mon esprit, et ce que cet événement tragique malheureusement a aussi provoqué en termes de construction personnelle pour moi dans ma vie d'adulte aujourd'hui.
Oui.
Et ben ouais, je dirais que c'est un peu mon héroïne quoi, effectivement. Mais il y a voilà, donc il y a ma mère, mais il y a aussi la mère. Effectivement, on en parlait l'autre jour, il y a aussi la mère d'une manière générale, et c'est vrai que cet élément qui est l'eau, en fait. Exactement, l'eau. Cet élément qui est l'eau et aussi mon héroïne, parce que c'est vrai que elle apporte tellement en termes d'équilibre, en tout cas pour moi, elle fait tellement partie intégrante de mon quotidien aujourd'hui et de qui je suis devenu et de qui je suis, que je ne peux pas la mettre de côté quoi. Donc ma mère et la mère, je dirais, voilà, sont mes héroïnes. Alors après, à plus court terme, on va dire, récemment. On va dire mon héroïne, ça a été une personne qui a beaucoup contribué à mes deux derniers records, à mes deux derniers événements, et qui a justement travaillé avec passion sur tout ça. pour moi la passion c'est très important, hein, donc c'est aussi pour ça que j'admire cette personne. C'est ma manager Chloé Tedaldi, voilà, qui a travaillé aveuglément et passionnément à la mise en place de mes deux derniers records d'apnée sous la glace, donc en distance à l'horizontale,
hein. Oui.
Que en 2021 en Finlande et en 2022 au Canada sans combinaison, et elle a été voilà la chef d'orchestre de ces deux projets. Et voilà, c'est vrai que ce qu'elle a fait d'un point de vue organisationnel était assez et émotionnel aussi d'ailleurs, et assez extraordinaire. Donc là, je dirais que ces deux dernières années, ça a été elle mon héroïne.
Bon, eh bien, tu vois. Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'au début, c'est vrai que tu nous partages que tu as évolué dans un contexte plutôt masculin, et que du coup, ça a dû t'amener à une réflexion, cette question. Et puis, au fil de l'eau, de nos échanges, de l'interview et peut-être d'une réflexion que tu as menée, eh bien, en fait, on a trois héroïnes que sont ta mère, l'eau ou la mère, et ta manager qui apparaissent, en fait, au fil de l'interview. Et je trouve ça très beau, en fait. Merci, en tout cas, de ce partage. Alors, Arthur, donc là, en fait, tu vis donc après ces deux records du monde. Alors déjà, j'ai envie de te demander comment tu te sens après ces deux records du monde Et j'ai envie de savoir aussi quels sont tes projets.
Bah après un projet comme ça, qui a occupé l'esprit et le quotidien pendant presque 3 ans, quand on se retrouve dans l'après-record, c'est pas toujours facile à gérer en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut digérer un petit peu tout ce qui vient de se passer. Voilà, il faut digérer un petit peu tout ce qui vient de se passer. En plus de ça, ça correspond pile poil à une période où il y a pas mal de changements au niveau personnel. Voilà, je déménage, je quitte définitivement Paris pour m'installer sur Nice. Enfin, en tout cas, définitivement, durablement. Donc, j'emménage dans un nouvel appartement et un nouveau lieu de vie. Donc, c'est vraiment un nouveau départ à plein de niveaux. C'est pas forcément très facile à gérer. Alors je le gère autant que je peux, hein, et puis je m'occupe de toute façon. Mais c'est vrai que le fait d'avoir de nouveaux projets qui naissent dans cette période-là, c'est très important. Parce que sinon, on peut vite se retrouver dans un vide un petit peu difficile à combler, quoi. En plus de ça, ça correspond pile poil à la période d'été où, justement, au niveau conférence, etc., c'est très calme, hein, parce que tout le monde est en vacances. Donc, c'est vrai que je suis tombé vraiment dans une phase où c'était pas si facile que ça à gérer, l'après. Tout va reprendre à la rentrée, donc ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est important dans cette période d'avoir de nouveaux projets qui naissent sur lesquels on peut travailler, parce que ça permet de rebondir sur autre chose et de pas se retrouver justement dans ce vide qui peut être assez difficile à gérer. Je l'admets, quoi.
D'accord. Donc là, ce que je comprends, c'est que donc il y a ces deux records du monde, hein, que tu viens de remporter par rapport à tes performances. Est-ce que donc tu ne participeras pas au JO 2024 ?
Alors l'apnée n'est pas encore un sport olympique. On a failli, on n'est pas passé loin. On était en discussion au niveau de la CMAS, donc la Confédération mondiale des activités subaquatiques, qui est la Fédération internationale d'apnée, en gros, qui est l'organisme qui régit l'apnée au niveau international, en tout cas avec le CIO. La CMAS était donc la Confédération mondiale des activités subaquatiques était donc en contact avec le CIO et en négociation pour essayer de faire passer l'apnée comme sport de démonstration aux prochains Jeux Olympiques d'été, donc à Paris, et on s'est fait voler la place par la breakdance, je crois.
D'accord, ok.
Donc on ne sera pas aux Jeux Olympiques à Paris, et c'est dommage, mais bon, voilà, fallait s'y attendre aussi un peu, hein. Je pense que c'est vrai que c'est beaucoup des décisions qui sont prises en fonction de la médiatisation, du nombre de licenciés, des lobbies aussi, bien sûr, qui existent derrière chaque activité. Et c'est vrai que la breakdance, c'est déjà une activité qui est très développée avec énormément de pratiquants dans le monde. Ils ont déjà des compétitions avec de gros, gros sponsors, notamment Red Bull, pour ne pas les citer. Donc, même si on est un sport qui a le vent en poupe et on se développe énormément en ce moment, on ne peut pas faire le poids face à une activité comme la breakdance. Voilà. Même si, chacun a sa vision de tout ça. C'est vrai que moi, ma vision, c'est que je trouve que la breakdance, au-delà d'être un sport, est surtout, à mon sens, une activité artistique, en tout cas qui lie l'artistique au sport et qui est surtout pour moi une activité artistique. Voilà. avant d'être une activité sportive. Et c'est vrai que je trouve, moi, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, que l'apnée est une discipline qui a une aura plus sportive qu'artistique. Voilà. Même si c'est aussi artistique, parce que c'est très beau. Et la breakdance, j'ai accepté l'inverse. Pour moi, ça a une dimension plus artistique que sportive. Et c'est vrai que l'un dans l'autre, je trouvais que ça aurait été plus légitime que l'apnée soit sport olympique. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi une question de médiatisation, de nombre de licenciés, de sponsors et de lobby. Voilà. Et donc, c'est vrai que malheureusement, là dans l'équation, on n'a pas fait le poids. C'est bien dommage. En tout cas, on aurait été voilà. Alors, si on était passé, de toute façon, on aurait été sport de démonstration sur une Olympiade.
D'accord.
C'est-à-dire, en gros, quoi. On fait partie des 3 ou 4 sports de démonstration sur les JO de Paris, ce qui veut dire qu'on ne devient en aucun cas sport permanent, hein, c'est-à-dire que ce sera juste sur ces JO-là. Et si ça plaît au public, que ça fait de l'audience, et qu'en gros, ça génère de l'argent, ça peut éventuellement devenir sport permanent ensuite. Mais c'est compliqué, parce que je crois aussi qu'il faut qu'il y ait s'il y a un sport qui doit rentrer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sport qui sorte, je crois. Hein, donc je crois que c'est très, très compliqué pour ensuite devenir sport permanent. Mais en tout cas, on aurait pu être sport de démonstration sur une Olympiade et ça aurait permis d'avoir un gros coup de projecteur sur notre activité et notre sport. Ça aurait été pas mal.
Alors toi, tu m'avais parlé de 2 projets qui étaient présents pour toi. Et comme tu le dis, hein, quand on a travaillé 3 ans sur un record du monde et sur une performance et qu'on s'est entraîné chaque jour, il faut pouvoir rebondir et avoir de nouveaux projets. Alors, il y en a un, c'est un projet par la voix. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, oui, j'ai comme projet, de toute façon, en toile de fond depuis mes 15 ans, d'un jour me servir de ma voix pour faire quelque chose, que ce soit pour chanter ou que ce soit pour parler, ou que ce soit pour du chant, de la radio, du doublage, peu importe, j'ai très envie de me servir de ma voix pour faire des choses. Et je m'en sers déjà, d'ailleurs, quand je fais des conférences hein, devant un public, donc c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que je me sers de ma voix. Et j'aime me servir de ma voix. Donc voilà, je pense que je vais essayer de développer cet aspect-là. J'adore chanter, j'adore jouer de la guitare, chanter. Donc ça, c'est un truc que je fais pas assez malheureusement, mais que j'aimerais bien faire plus en tout cas. Hein, moi, je joue et je chante depuis que j'ai 10 ans. Donc c'est un truc qui fait partie de moi et j'aimerais bien l'exploiter un petit peu plus. Et pourquoi pas, voilà, oui, faire du doublage, parler un petit peu plus en radio aussi, pourquoi pas, si on m'en donne l'opportunité. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et se servir, enfin, que je me serve de ma voix, en tout cas, là, c'est quelque chose que je fais voilà, déjà à travers mes conférences, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc il y a cet aspect, je dirais, presque qui n'a pas grand chose à voir avec l'apnée d'ailleurs, hein, je suis sur quelque chose de complètement nouveau. Ça a à voir avec l'apnée dans le sens où oui, je peux faire de la transmission à l'occasion de mes conférences, mais je dirais que je suis sur quelque chose de vraiment nouveau par rapport à ma pratique sportive, quoi. Voilà, ça me plaît beaucoup. Je dirais que c'est mon projet. Si je peux appeler ça artistique, mais ce sont mes ambitions, en tout cas, artistiques. Voilà. Artistiques, vocales, en tout cas.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je ressens, moi, là, quand tu nous partages ça, c'est que c'est antinomique, mais pas dans un sens négatif, hein, avec la profondeur, le silence que l'on peut avoir au fond de la mer. Et le fait, à un moment donné, lorsque je suis sur Terre, j'ai envie de faire porter ma voix et de la faire porter haut et fort, ou au travers de médias, de la radio, du chant. Et je trouve ça très intéressant, en fait. Voilà. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi où, à un moment donné, je me ressource tellement au fond de l'eau, dans ce silence et dans ces profondeurs, que j'ai toute la capacité, une fois sur Terre, de faire porter ma voix avec des choses à dire, des choses à transmettre. Donc voilà, voilà un petit peu ma perception lorsque tu nous partages ton envie de faire porter ta voix.
Oui. Ça, j'ai toujours eu envie, moi. Vraiment, ça m'a jamais trop quitté. C'est juste que maintenant que j'ai fait le job dans cette carrière d'apnéiste, voilà, j'aimerais bien faire le job là-dedans, tout en continuant évidemment mon activité d'apnéiste à haut niveau hein, dans les différents projets que je mène. Mais voilà, essayer de développer ça aussi en parallèle et essayer pourquoi pas de voir si j'arrive à voilà construire des choses dedans. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de rapport avec l'apnée, si ce n'est la respiration, le souffle, hein, qui est fondamental quand on se sert de sa voix. Et j'ai appris, moi, ces 10 dernières années, à me servir de mon souffle de la meilleure manière possible, en tout cas, à mon niveau. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut me servir si je me sers un jour de ma voix, ouais. Enfin, en tout cas, je m'en sers là, autant que je peux et ça me sert déjà. C'est quelque chose qui me sert au niveau de la respiration, enfin, de la ventilation, de la prise d'air, de la colonne d'air, de la ventilation diaphragmatique. Voilà, je sais que j'ai déjà des clés de compréhension par rapport à tout ça qui m'ont été apportées par ma pratique de l'apnée. Donc, il y a quand même un lien quelque part. Hein. Entre la voix et ce que j'ai pu faire avant, moi, je trouve.
C'est vrai, au travers de la respiration, tout à fait. Alors, tu m'as parlé aussi d'un projet avec des orques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bah là, le gros projet qui vient sur les 12 prochains mois, on va dire, c'est d'aller... à la rencontre des orques en apnée en Norvège, donc dans les fjords gelés de Norvège. Il y a des zones là-haut où il y a des rassemblements d'orques qui viennent voilà, chaque année pour chasser, hein, pour se nourrir. Il y a des bancs de harengs, il y a des millions de harengs qui déferlent là-haut tous les ans, et donc il y a beaucoup de prédation, et donc on a des orques, on a des baleines voilà, qui viennent là-haut à certaines périodes. Et l'idée, ce serait d'aller à la rencontre de ces super prédateurs voilà, en apnée, parce que c'est un animal qui est fascinant. C'est aussi le plus gros prédateur des océans, donc il y a aussi une dimension sensibilisation par rapport à ça, parce que souvent les gens ont peur de l'orque. Et donc, il y a aussi une volonté de ma part de dédiaboliser aussi cet animal. Et donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de l'orque en apnée et d'essayer de faire un joli film ou une jolie petite série voilà, avec cette aventure. L'idée, c'est de faire un road movie en fait, de Paris jusqu'au nord de la Norvège. Et de traverser ces territoires gelés. Voilà, et la finalité de ce road movie, ce serait d'aller de plonger en apnée avec les orques. Voilà. Road movie en voiture électrique, bien sûr.
Je précise. Ok, passionnant. Alors ça c'est un projet voilà. 2023 ou 2024?
Alors ça, ce serait un projet soit fin 2022, soit fin 2023. On ne sait pas encore exactement. Ça va dépendre du timing. Le timing va être assez serré, donc on n'est pas encore certain de la manière dont on va le développer. Mais dans tous les cas, ça devrait se faire. Voilà, on a déjà quelques partenaires solides pour ce projet, et on n'est absolument pas fermé d'ailleurs aux propositions qui pourraient arriver si des partenaires voilà, sont intéressés par ce projet. Voilà, c'est un projet esthétique, il y a de la sensibilisation, il y a de l'écologie bien sûr, il y a de belles images, il y a de l'aventure, il y a de l'apnée, il y a du sport, il y a de l'esthétique, il y a de l'humain. Voilà, donc c'est un projet complet qui va être visuellement très impactant. avec une belle répercussion médiatique aussi, parce qu'on a, on a un gros média français qui nous accompagne sur cette opération. Donc,
c'est une bonne nouvelle.
On est assuré d'avoir une visibilité. Voilà, ouais, ouais, donc ça va être un beau projet. Et derrière ça, le deuxième gros projet qui va avec, je dirais que c'est un petit peu dans la continuité de cet esprit road movie, ce serait de faire un tour d'Europe des plus beaux sites de plongée, en voiture électrique toujours, et d'aller à la rencontre des gens, voilà, qui vivent un petit peu dans ces endroits, bien sûr, et à chaque fois, dans chaque endroit, de mettre un petit peu en lumière, bien sûr, les problématiques écologiques qu'il peut y avoir, de rencontrer des gens pour qu'il y ait aussi de l'humain, pareil, de faire de belles images, bien sûr, en apnée, d'aller à la rencontre des animaux, s'il y a des animaux, qu'ils soient d'ailleurs marins ou terrestres, hein, peu importe. Donc voilà, je dirais que c'est un gros tour d'Europe, des plus beaux sites de plongée qui se ferait en plusieurs épisodes, bien sûr, sur une mini-série de 5-6 minutes par épisode, je pense. Et voilà, qui serait dans la continuité un petit peu de ce road movie avec à la rencontre des orques en Norvège. Voilà.
Donc de multiples projets qui se profilent et de beaux projets. Je vois que tu ne manques pas, ou que toi et ton équipe ne manquent pas de créativité. Et c'est bien, et c'est bien. Et ça va nous donner envie de te suivre, Arthur.
Ouais, après les projets, c'est toujours pareil, hein. Les projets, c'est très très facile d'en avoir. C'est très facile de les imaginer. Après, encore faut-il avoir le moyen de les monter. Ça, c'est toujours différent. Et c'est vrai que ça passe par, je pense aussi, l'humain. C'est-à-dire que on n'accroche pas les partenaires et les médias simplement avec un beau projet. Il faut qu'il y ait aussi, je pense, la manière dont on raconte ce projet et dont on l'incarne. C'est aussi ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir, je dirais, le discours qui va avec et la capacité d'incarner ces projets en faisant passer des messages forts. Et c'est ça qui est surtout important pour réussir à concrétiser ces projets. Je veux dire qu'on a tous la capacité d'imaginer des projets fous qui font rêver, quoi. Mais il faut surtout avoir la capacité de l'incarner et de raconter ces histoires et de faire passer des messages. Et je pense que c'est surtout ça qui permet de concrétiser ces projets.
C'est la façon
dont on les présente et dont on les raconte et dont on les incarne, quoi. Alors, le storytelling est important, mais c'est aussi important d'être authentique dans ce storytelling. C'est-à-dire que c'est important d'y aller en toute authenticité. Il faut endosser un petit peu ce jeu d'acteur, bien sûr, hein, qui peut être important. Mais toujours avec de l'authenticité dans le regard et dans le discours, parce que du coup, sinon c'est pas qualitatif. Donc il faut faire attention dans ce storytelling à toujours y mettre du sien de manière authentique, c'est-à-dire réussir à partager aussi ses émotions, on regarde les choses dont on les voit, et avec authenticité et humanité. Et ça, je pense que c'est important, parce que si on fait pas ça, on rentre vite dans quelque chose de surfait, de formaté, et qui n'aura pas d'âme, en réalité. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, qui me déçoit un petit peu quand je regarde la télé. Par exemple, aujourd'hui, quand je regarde des documentaires, je regarde très très peu la télé, mais quand je regarde des documentaires, notamment reportages, aventures, etc., à la télé, souvent, tout est devenu très formaté, et très, y a plus grand-chose d'humain, en réalité, à l'intérieur. Et en fait, je pense que c'est ce qui manque un petit peu parfois aujourd'hui dans le documentaire, c'est d'avoir un petit peu cette authenticité du regard et de ce qui est vécu. Alors ça existe, hein, il y a encore de très bons documentaires, mais voilà, souvent en tout cas on tombe sur des choses qui sont un peu déshumanisées. Et je trouve que ça, c'est important, mais ça, c'est partout pareil, hein, dans les conférences par exemple que je fais ou que je serai amené à faire, je fais toujours attention à toujours réserver une part d'inconnu justement dans ce que je fais, de pas tout préparer, pour que justement il y ait aussi de la spontanéité, de l'humain et de l'authenticité qui se dégage de tout ce que je peux faire. Et je pense que la réussite vient de là, beaucoup, dans les projets qu'on mène. C'est qu'il faut absolument être authentique. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Toujours avec une petite part où on endosse effectivement le rôle d'acteur, parce que c'est important aussi de savoir se comporter, mais toujours avec une grosse part d'authenticité quand même. Voilà.
Je te rejoins tout à fait sur ça. Et justement, dans plusieurs interviews qui sont sur le podcast Balance ton héroïne, on parle d'authenticité. Et je sais moi, j'ai l'impression que pour toi, c'est simple et fluide. Moi, je sais que pour moi, l'authenticité, c'est pas inné, mais je veux dire, c'est presque naturel. Mais on peut encore retrouver, ne serait-ce qu'au travers d'interviews ou de personnes qui vont nous présenter leur projet, des personnes qui suivent un texte ou qui ont appris quelque chose par cœur. Et je sais que dans l'interview d'Ashley Taïeb, vraiment ce qu'elle nous partage et ce qu'elle nous dit sur Balance ton héroïne, c'est de parler, de parler avec le beat, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit fluide. Déjà, quand on incarne son projet, quand on est à sa juste place et qu'on est aligné, c'est fluide lorsqu'on parle de son projet et on n'a pas besoin de se préparer des heures, justement, parce qu'on va raconter son histoire et la genèse du projet. Et ça, on l'a en nous, en fait. Et c'est ça aussi, incarner son projet de manière authentique. Donc, je te rejoins tout à fait sur cela. Arthur, on arrive à la fin de cette interview. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir fait confiance. C'est vrai que, comme je le disais au début, c'est une connexion Instagram, donc on ne se connaissait pas forcément. Donc, il y a eu un échange pour qu'il y ait une connexion, pour pouvoir se connecter, pour qu'on puisse créer le lien et se faire confiance. Ça a plutôt bien marché parce que l'échange a duré beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Et puis, comme je te l'avais dit lors de la préparation, ne pas tout savoir sur toi pour qu'il y ait justement de la spontanéité me concernant au niveau des questions et puis toi, de la spontanéité dans ce que tu pouvais nous apporter comme élément aujourd'hui dans cette interview, et ça a plutôt bien fonctionné. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et ravi d'avoir de nouveau un homme qui se confie au micro de Balance ton héroïne. Je trouve ça très intéressant et justement, je rejoins ta maman à qui on envoie toutes nos pensées dans effectivement c'est ensemble et c'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble et c'est ça qui est bien. Donc merci de nous avoir offert cela au travers cette interview.
Avec plaisir.
Merci à Arthur et on te suit sur les réseaux avec les liens que je mets dans les ressources de l'épisode. Avec grand plaisir.
Salut.
À bientôt.
Ciao.
Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.